La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Éphésiens 1, les versets 15 à 23.
C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez que l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tous en tous.
Bonjour à chacun. C'est une joie de pouvoir partager avec vous ce moment de sabbat très particulier que nous retrouvons hebdomadairement pour ensemble louer le Seigneur, rappeler ô combien il est particulièrement bon et ô combien nous pouvons avoir confiance en lui. C'est un peu ce matin aussi ce que je voudrais partager avec vous au travers de ce moment de message que nous allons avoir ensemble. La particularité des camps, c'est souvent, d'ailleurs c'est ce qu'on nous dit, quand on va faire des camps, on dit aux directeurs, aux animateurs, « Ah, vous allez vous amuser, vous allez passer des bonnes vacances avec les jeunes. » Alors ça c'est vrai, j'avoue. On passe de bons moments. On passe de bons moments parce que on vit ensemble, on joue ensemble, on partage des choses ensemble. Et ça, c'est extraordinaire. On partage aussi des questionnements ensemble. Et je dois reconnaître que de plus en plus, les questionnements que nous partageons, que nous entendons, que ce soit aussi bien pour de par les animateurs ou de par les directeurs, c'est les questionnements sur la famille. Je l'avais déjà dit ici, une fois, j'essaye toujours de trouver dans la Bible des familles parfaites. Et comme vous l'avez compris, c'est plus compliqué. Et c'est vrai qu'on a l'impression, peut-être au jour d'aujourd'hui, qu'on ressent plus que d'habitude ces imperfections, questionnements logiques donc des jeunes qui se posent sur l'opportunité, ce qui se passe, pourquoi. L'expression de leur inquiétude sur ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont l'impression d'entendre. Alors ce matin, j'aimerais parcourir avec vous une famille très connue dans la Bible et découvrir une femme en particulier. Mettons les femmes à l'honneur, consacrons-leur un peu de temps. Le texte que je vais vous inviter à suivre, pas forcément mot à mot, mais à le vivre en tous les cas, c'est toute la partie de la Genèse dans le chapitre 37 et 38. Et dans le chapitre 37, nous retrouvons un homme bien connu, Jacob. Un père, un mari. Dans ce chapitre 37, nous découvrons un qui a plusieurs femmes. 4 exactement, ce qu'on pourrait dire au jour d'aujourd'hui. 2 officielles, 2 moins officielles. Alors déjà là, ça commence moyen. Qui vont déboucher sur 12 fils, entre autres. Mais comme toute bonne famille, ça fait des demi-frères. Aucune ressemblance à des familles aujourd'hui. Les demi-frères dans une famille. Une famille où un père a essayé de commencer la vie la plus extraordinairement possible, c'est-à-dire de choisir la femme qu'il aime. Tout garçon, toute fille souhaite trouver la bonne personne pour passer du temps avec elle. Celle qui va suivre tous nos pas, ou celui avec qui je vais pouvoir m'épanouir en tant que femme. Ben lui, l'homme qui a trompé est trompé. Trompé par son beau-père. Ah, oh, les beaux-pères, c'est comme les belles-mères, ça. Ben oui, mais ce qu'il a expérimenté, il l'a vécu et il l'a fait faire aux autres. Et est-ce qu'il s'est remis en question? Voilà une chose intéressante dans notre vie de tous les jours. Est-ce qu'on se remet en question sur nos attitudes? Sur notre façon de vivre, sur notre façon d'être en relation les uns avec les autres? Qui dit des demi-frères, dit une harmonie parfaite. C'est une crise qui débouche sur ses demi-frères. 12 enfants qui vont passer une crise douloureuse. Une crise qui va déboucher sur une chose qui est horrible dans une famille. Vendre son propre frère pour l'éliminer. Ça, c'est pas simple comme histoire. Dans une famille où on voudrait tous être en harmonie, où on va pouvoir échanger, on va pouvoir être d'accord, voilà pas qu'il y en a plusieurs dans ce cas-là, qui vont couper l'élan de la fraternité. Il faut dire que le père a une préférence. Ah, voilà quelque chose aussi qui est douloureux dans la vie. Faire des préférences. Aimer plus qu'un autre. Avoir une attention particulière plus pour l'un que pour l'autre. Imaginez que l'un est beaucoup plus sain que l'autre. Bon, meilleur, soit parce qu'il me ressemble, soit parce que c'est exactement ce que j'aimerais qu'il soit. Bref, Joseph est le fils tellement rêvé, celui que l'on aime, celui à qui on prend et on porte toute son attention. Les autres, ben les autres, heureusement qu'ils sont là, parce que c'est eux qui s'occupent des moutons, c'est eux qui s'occupent de tout le reste du travail dans la famille. Une tension qui monte, un complot qui arrive, un complot qui se trame. La tension est à son comble lorsque, comme on le disait, toujours dans ce chapitre 37, les enfants, certains frères, vont vendre Joseph. Alors vous savez, c'est toujours dans une famille un peu une tension. Oui, il faut le tuer. Non, ne va pas jusque-là. Il ne faut pas quand même faire ça. Oui, mais il faut quand même qu'on s'en débarrasse. Non, mais on est d'accord, mais ça va faire du mal à notre père. Il faut peut-être juste le mettre dans une citerne. Et il y en a qui essayent, vous savez, ce petit moment dans dans un groupe, dans une famille où on essaye de trouver les moyens pour éviter le pire. Où on va essayer d'échafauder des phrases, des remarques, en disant « non mais fais pas ça ». Peut-être que si on fait ça, ce sera mieux. À partir de quel moment c'est mieux lorsqu'on offense un être humain? Bien sûr, Judas a évité le pire. Mais Joseph a quand même été mis dans la citerne. Bien sûr, Judas a évité le pire. Bien sûr, Ruben aussi a évité le pire devant la colère de ses frères. Le pire étant la mort. Mais ça a débouché quand même par la vente de Joseph en tant qu'esclave. C'est le moindre mal. Le moindre mal dans cette fraternité qui se veut éliminer le problème et ne pas le surmonter. Et là arrive au chapitre 38, un chapitre qui arrive ici dans la Bible, qui est planté ici avant la grande histoire de Joseph, et après ces moments terribles, de la naissance des enfants de Jacob, de la difficulté qu'il y a entre les frères, de la vente, et arrive ce chapitre 38. Judas n'en peut plus. Judas s'en va. Judas ne peut pas supporter ce qui vient d'être fait alors qu'il a évité le pire, et pourtant le pire pour lui n'est pas très... C'est pas ça. Et vous savez, à un moment donné, dans une famille, on a besoin de se retirer. Parce qu'on a l'impression que cette famille est toxique. Judas aussi, dans une autre raison, a besoin de se dire, maintenant il faut que je coupe le cordon ombilical de cette famille. Je dois partir. Alors c'est pas marqué, mais... comme tel que je lis dans la Bible, mais ça vient ici, là, brutalement, après tous ces événements. Ou peut-être simplement que Judas avait besoin, justement, de fonder une nouvelle famille. De se dire, allez, on va faire quelque chose de mieux. Et ça se passe plutôt bien, hein ? Ça se passe plutôt bien, il se marie. Trouve une fille. Ils ont trois enfants, trois fils. La vie est belle. Alors les dames, excusez-moi, hein, mais à l'époque, avoir des garçons, c'était bien. On va dire juste ça. C'était très bien. Mais il fallait aussi des filles, parce que fallait faire d'autres enfants. Et on a trois garçons ici. Et donc ça grandit. En quelques versets, nous passons de dizaines à des dizaines d'années, puisque l'aîné est bon à marier. Et on trouve une femme pour elle, qui s'appelle Tamar. Et je peux imaginer un Judas rempli de bonheur, en se disant, ça y est, je suis enfin dans une famille où je peux vivre quelque chose de beaucoup plus équilibré, de quelque chose de beaucoup plus fort, de quelque chose où j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des moyens de subsistance, tout va bien. Et là, le texte nous dit, lors du mariage avec Er, son premier-né, le texte nous dit... Er a été trouvé mauvais aux yeux de Dieu et il meurt. C'est tout ce que l'on sait. Et on sait la difficulté qu'il y a dans l'Ancien Testament. Hein, pour l'époque, tout vient de Dieu. Ça ne veut pas forcément dire que c'est Dieu qui l'a tué, mais en tous les cas, il n'a pas été retenu bon. On a l'impression de quitter une famille qui est en difficulté pour créer une nouvelle famille. Et voilà pas que notre premier aîné, lui aussi, a été trouvé mauvais. Et là va s'en suivre toute une série de difficultés pour lui, puisque la règle veut que lorsque l'aîné meurt, sa femme revient de droit au second fils. Et donc Judas continue à se dire, voilà, Onan, c'est à toi de prendre la suite. Prends la femme de ton frère. Et là, il y a une situation qui est assez incroyable. Onan, lorsqu'on lit les versets 8 et 9, prend la fille, la femme, mais ne veut pas avoir d'enfant. Alors on fait la contraception comme on peut, à l'époque, on veut bien se réjouir avec sa femme. Mais on arrête avant qu'on puisse concevoir des enfants. Vous voyez, c'est des petites choses qu'il y a dans un rapport entre un homme et une femme où, à un moment donné, c'est assez cru quand même de trouver ça dans la Bible. C'est assez surprenant de trouver ça aussi. Et la question qui me pose ici, c'est jusqu'où moi je suis prêt à aller pour éviter, pour être à l'encontre de la parole de Dieu ? Comment je vis ma relation avec l'autre ? Avec mon conjoint, avec ma conjointe ? Comment je peux avoir une relation saine quand je commence à faire des histoires particulières autour de ma vie conjugale ? Et là va s'en suivre une décision de Judas qui va être terrible pour Tamar. Terrible. Le regard qu'on peut porter sur une femme dont elle a déjà perdu deux maris. Parce que bien sûr, Onan meurt. Et j'imagine tout à fait dans les villages, vous savez ce que c'est ? Ah ouais, c'est elle là, là. Celle dont dès qu'elle se marie, les hommes meurent. Vous imaginez l'image sociale que ça apporte pour cette femme. Et pour son beau-père, oh là là, je ne vais pas donner mon troisième à Tamar. Ça va être le même topo. Et du coup, j'aurai plus de fils. Et Judas qui dit, va. Prends un peu de recul, fais ton deuil, retourne chez ton père. C'est terrible comme décision. Ne prends surtout pas mon troisième, tu es capable de le faire mourir aussi. Grosso modo, c'est ça qu'il est en train de dire. Et Tamar ici est seule, tellement seule qu'elle est abandonnée, même si elle est chez son père, c'est terrible. On n'a pas le retour du père, mais ô combien il peut y avoir des images du genre « Comment ma fille, tu reviens ? Qu'est-ce que tu as fait de mal pour que ça se passe comme ça ? Tu étais casée avec un homme, qu'est-ce que tu as fait de mal ?» Et des tas de clichés d'images qui pourraient se passer, qui ne se passent pas de nos jours, bien sûr. Tamar est seule chez ses parents. Judas se dit dans sa tête, j'ai sauvé mon dernier, la vie est belle. Il est célibataire, notre Judas, parce que sa femme est morte. Famille terrible comme vécu, et c'est pas évident à pouvoir gérer toutes ces choses-là. C'est douloureux. Et j'imagine tout à fait Judas qui doit avoir pas mal de questions à se poser, qui se pose pas mal de questions par rapport à ça. Et là, il y a la petite histoire de Tamar qui entend dire que son beau-père revient dans la ville où elle est pour emmener des moutons, pour les vendre, les tondes, bref, c'est le marché, quoi. Ça fait des années, alors on n'a pas le détail dans la Bible, mais ça fait un certain temps que Tamar n'a plus de nouvelles de son beau-père, alors qu'elle sait qu'il a un troisième fils. Et là, elle joue un petit jeu à partir du verset 13 jusqu'au verset 19, où elle va à la fois jouer un rôle et à la fois... utiliser la faiblesse de l'homme. Parce que c'est beau être célibataire, mais Judas apprend qu'il y a une prostituée dans la ville. En tous les cas, quand il voit la fille là, habillée, voilée, bizarre, ça doit être une prostituée, ça. Il y a longtemps que, comment dirais-je, ça se fait. Alors, c'était pas prévu, hein. C'est toujours un peu les moments où, ah, tiens, hop là, voilà, c'est maintenant. Donc, il n'a pas d'argent, il n'a pas rien, il n'a rien à lui donner. Parce que, voilà, hein, on donne quand même quelque chose. Contre quelque chose. Et donc, il donne des objets en gage pour dire après, j'enverrai quelqu'un pour te donner une brebis contre les gages que je te donne maintenant. Et ça se fait. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est le résultat dans cette histoire. Judas envoie donc les brebis par l'intermédiaire d'un serviteur. Le serviteur demande où est-ce qu'est la prostituée. Personne ne connaît, il n'y a pas de prostituée ici, je ne vois pas de quoi vous parlez. Bref, impossible de trouver. Jusqu'au moment où il apprend quoi? Et c'est ça aussi la question. Il apprend que sa belle-fille a couché avec un homme. Pire, elle est enceinte. Comment? Ma belle-fille que j'ai envoyée chez ses parents, comment ose-t-elle faire une telle chose? Honte, scandale! Comment a-t-elle pu faire ça à ma famille? C'est toujours dans ces moments-là où on oublie un peu nos propres péchés, erreurs, et là forcément, décision. Ça ne va pas, il faut la condamner. Et Tamar lui dit, fais envoyer les objets qu'il a laissés chez elle. Et Tamar demandait, tu reconnais? Tu vois ce que c'est? Et lorsqu'on regarde verset 24-25, comme on l'a jeté dehors, elle envoyait un message à son beau-père, « C'est de l'homme à qui appartient ces objets que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont se cachés ces cordons et ce bâton. » Judas les reconnut et s'écria, « Elle est plus juste que moi. » Elle a fait cela parce que je ne l'ai pas donné pour femme à mon fils Shéla. Il ne s'unit plus jamais avec elle. Un homme qui, à un moment donné, découvre l'ampleur du désastre en se disant « J'ai fui les problèmes de famille, je me retrouve moi-même à en faire. » J'ai fui les problèmes de famille, mais voilà qu'une femme est plus juste que moi. Un terme impressionnant quand même. Simplement parce qu'elle a suivi la règle de l'époque. Elle n'a pas été voir d'autres, elle n'a pas vu la prostituée. Elle a simplement réalisé ce que Judas aurait dû faire. Et les conséquences de ça sont encore plus impressionnantes, puisque verset 27, quand vint le moment de la naissance, il s'avéra qu'elle portait des jumeaux pendant l'accouchement. L'un d'eux présenta une main, et là, il y a tout un jeu entre les jumeaux. La main sort, elle rentre, on change, etc. S'arrête ici le chapitre. Et on retombe sur l'histoire de Joseph. Elle va revenir à un autre moment, dans un autre livre, dans Ruth. Et dans Ruth, au chapitre 4, pardon, vous connaissez l'histoire de Ruth, un peu similaire dans certains points d'ailleurs, hein, une étrangère, participait pas, il a fallu rachat de la famille, etc. Mais lorsque Ruth se marie avec Boaz, il y a une phrase ici qui arrive au verset 14. Après que Ruth eut été enceinte et donné naissance à un fils, verset 14, les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. » Et là, on parle de la belle-mère de Ruth. Que son nom devienne célèbre en Israël, il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'aime, qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que sept fils. Ça, c'est mettre la mère dans une réalité extraordinaire. Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargera de l'élever. Les voisines s'écrièrent, Noémie a un fils, et elles lui donnèrent le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David. Et lorsqu'on regarde un peu plus loin les petites généalogies, on a une liste ici de Pérets, verset 18. On passe à Ram, à Nashkon, Salma, Boaz, Obed, Isaïe, David. Deux femmes, deux destinées différentes. Deux qui ont dû batailler sur une difficulté dans la famille. Deux qui ne sont pas restés sur des oui-dire, des entendus, des accusations, des malhonnêtetés de la part des voisins ou de la part des beaux-pères ou de la part de la belle-famille ou de la famille. Des femmes qui ont tenu bon. Qui se retrouvent aussi dans Matthieu, chapitre 1er. Généalogie de Jésus, ces deux femmes se retrouvent dans la généalogie de Jésus. Une généalogie qui nous donne notre Sauveur, celui qui est mort pour chacun d'entre nous, celui qui ne vient pas d'une dynastie ou d'une généalogie parfaite, celui qui ne vient pas d'une famille parfaite, celui qui ne vient pas d'une toute une série de familles où il n'y a pas eu de problème, bien au contraire. Seules cinq femmes sont marquées dans cette généalogie de Jésus dans Matthieu. Cinq femmes. Toutes avec des histoires particulières. Mais toutes sauvées par la descendance envers Jésus. Toutes prises comme étant des personnes qui ont dépassé la crise, qui ont toujours voulu voir la croissance de la vie, qui ont dépassé les difficultés, les sous-entendus, qui ont été une image positive de la vie, même s'il a fallu se battre, qui ne prétendent pas d'être dans une famille parfaite ou qui sont eux-mêmes parfaits, bien au contraire, mais qui sont sûrs d'une chose, Dieu est présent avec eux. Lorsque Paul écrit aux Éphésiens, dans le texte qui nous a été lu tout à l'heure, c'est un peu cela qui est donné ici. C'est de nous rappeler que notre Seigneur, Jésus, par la foi en lui, nous pouvons avoir une destinée extraordinaire. Nous pouvons dépasser les clivages, les difficultés, les crises. Nous pouvons prendre un virage dans la croissance de notre vie avec lui. Et il loue les Éphésiens pour leur amour. Cet amour qu'ils ont trouvé et puisé en Dieu. Et qui au quotidien, malgré toutes les tempêtes et les difficultés, se donne cet attachement. On entend beaucoup de crises autour de nous. Que ce soit dans les familles, que ce soit dans la société ou que ce soit ailleurs, des signes qui nous font dire que ça ne va pas. Des signes qui nous font dire que, ben oui, on n'est pas dans une société parfaite, loin de là, et ça ne va pas s'arranger. Mais attention, des crises, il y en a toujours eu. La question qui se pose au jour d'aujourd'hui, c'est comme les Éphésiens, est-ce que nous voulons garder cette vision de notre famille, de la vie, de là où je suis? C'est la crise, ça ne va pas. Il n'y a rien qui peut nous sauver. Bon, si ce n'est Jésus, ouf. Mais après. Ou bien, non, mais ce n'est pas parce que ça va mal que je vais rester comme ça. Aujourd'hui, j'ai un Dieu fort qui peut transformer les cœurs, qui peut transformer les mentalités, qui peut transformer les hommes et les femmes. J'y crois. J'avance avec lui. Je construis quelque chose avec lui. Je reconstruis quelque chose avec lui, mais l'avenir est sûr et positif. Dans l'amour, dans la joie, dans cette intelligence que Dieu m'a donnée qui me permet d'avancer en toutes choses. Amen.